France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Louise Cognard et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Clara Galivelle. Jusqu'où les juges peuvent-ils rester garants de la démocratie? C'est le deuxième épisode de notre série sur les batailles engagées par le pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Hier, nous étions aux États-Unis où les juges fédéraux ont tenté de suspendre plusieurs décrets pris par Donald Trump dès son investiture. Aujourd'hui, en Israël, le sursaut de la Cour suprême. Son nouveau président, Isaac Amit, a prêté serment il y a 3 semaines, boycotté par le Premier ministre et par le ministre de la Justice.
Je m'engage à être fidèle à l'État d'Israël et à ses lois, à rendre une justice équitable, à ne pas déformer le jugement et à ne pas faire preuve de partialité.
La déclaration du ministre de la Justice, Yariv Levin, selon laquelle il boycotte le juge Amit, est une violation de la loi. Je l'appelle ici. Yariv, revenez sur votre décision. Ne nous faites pas retomber dans ces situations.
L'esprit d'État nous oblige, nous contraint à accepter les désaccords, à parler, à écouter et à respecter malgré les divergences, même au cœur des controverses. Les boycotts sont l'exact opposé de l'esprit d'État.
C'est le président israélien qui s'exprime ainsi. Dans un pays démocratique, disait le 13 février Isaac Herzog, il n'y a pas de place pour qu'une branche du pouvoir en ignore une autre, pour que l'exécutif ignore le judiciaire. À la cérémonie d'investiture du nouveau chef de la Cour suprême, ni le ministre de la Justice, Yariv Levin, ni Benjamin Netanyahou, ni le président de la Knesset, le Parlement, n'étaient présents comme le veut le protocole. Isaac Amit a donc prêté serment devant cette assemblée incomplète en promettant tente de défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs. Tout ce que la réforme de la justice voulait affaiblir, cette réforme qui, avant la guerre, a réuni contre elle presque tous les jours des dizaines de milliers d'Israéliens dans des manifestations, des démissions, voire des grèves de la faim. Les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre et la guerre impitoyable menée depuis à Gaza ont mis entre parenthèses cette réforme. Mais le ministre de la Justice en a présenté une nouvelle version au mois de janvier dernier, avec toujours de quoi inquiéter les juges, puisqu'elle interdit notamment le contrôle judiciaire des lois fondamentales, rend plus difficile l'éventuelle invalidation d'une loi de la Knesset par la Haute Cour et politise la composition de la commission de sélection des juges, un rouage essentiel jusque-là de la séparation des pouvoirs. Bonjour Denis Charby.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. On a la chance que vous soyez de passage à Paris et dans nos studios de Culture Monde. Vous avez publié en septembre Israël, l'impossible état normal chez Kalman Levy. Bonjour Sami Cohen.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po et vous avez publié chez Fayard Israël, une démocratie fragile. Vous êtes tous les deux des chercheurs qui avaient suivi de très près cette réforme de la justice, du pouvoir judiciaire depuis le début, depuis 2020, 2021, 2022, cette réforme mise entre parenthèses par la guerre mais qui revient sur le devant de la scène politique. D'abord, Isaac Amit, le nouveau président de la Cour suprême, est loin d'être un inconnu. On peut peut-être déjà imaginer l'impulsion qu'il va donner à cette institution. Quel juge est-il, Sami Cohen? Que défend-il, ce nouveau président de la Cour suprême?
Écoutez, ce que l'on sait de lui, c'est que c'est quand même une personnalité qui est très à cheval sur les grands principes constitutionnels. Vous l'avez mentionné, il est pour l'indépendance de la justice, pour la séparation des pouvoirs entre le judiciaire d'un côté et le législatif et l'exécutif de l'autre. C'est quelqu'un qui inquiète. Il inquiète la droite. Il inquiète la droite. C'est une droite qui, depuis la fin des années 1990, début des années 2000, essaye de revenir en fait sur ce qu'on a appelé la révolution constitutionnelle des années 90, initiée par le président de la Cour suprême de l'époque, Aaron Barak, qui a permis à la Cour suprême d'avancer dans ses prérogatives en lui permettant d'invalider une loi ordinaire si elle était contraire à une loi fondamentale. C'est quelque chose de fondamental, c'est vraiment le grand tournant. C'est à partir de ce moment-là, la droite considère que cette avancée n'est pas légitime. Et donc, depuis lors, on a eu plusieurs ministres de la justice. C'est pas seulement Yariv Levin. Il y a plusieurs ministres de la justice. Il y a eu Friedman. Il y a eu Ayelet Shaked. Et chacun, à son tour, a essayé de renier les prérogatives de la Cour suprême et de revenir sur cette clause-là qui permet à la Cour suprême d'invalider une loi ordinaire.
Est-ce que lui, par exemple, Isaac Amit en particulier, Denis Charby, a déjà invalidé ou contribué à invalider des lois de la Knesset ?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, il faut savoir, hein, on fait cette distinction entre juges conservateurs et juges libéraux, même si ce n'est pas formellement acté. Incontestablement, Isaac Amit fait partie des juges libéraux. Mais il n'a pas été désigné parce qu'il était un libéral. C'est pas une, comment dirais-je, une manœuvre de la Cour suprême pour le mettre président. C'est parce qu'il y a une méthode qui a été mise en place depuis le début
depuis 1950, en fait.
Voilà. Pour éviter la politisation, à l'intérieur de la Cour suprême. Quelle méthode on a choisi? Celle qu'on appelle en anglais de la seniority, c'est-à-dire de l'ancienneté, sera le président de la Cour suprême, celui ou celle qui succédera au précédent quand elle a 70 ans, il va partir à la retraite, et on nommera celui d'entre eux qui a le plus d'ancienneté au sein, comme juge de la Cour suprême. Ça peut être quelqu'un qui est libéral, ça peut être un conservateur, qu'importe, c'est comme ça qu'on évite la politisation à l'intérieur même, entre les juges, pour pas qu'il y ait de compétition, pour pas qu'il y ait de rivalité, en prenant ce critère un peu arbitraire, sans doute, mais qui permet d'éviter la politisation. Et c'est cela que Yariv Levin a voulu mettre en cause. Il n'y est pas parvenu parce que jusqu'au 7 octobre 2023, il n'y a pas de loi qui a été votée en deuxième et en troisième lecture pour entériner la modification de ce système de la seniority, de l'ancienneté. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'obstruction. Là, il faut bien comprendre, hein, Esther Hayut, la précédente présidente de la Cour suprême,
qui a pris sa retraite le 15 octobre 2023.
Exactement.
Temps après
après 7 octobre, on comprend très bien, mais bien entendu qu'entre-temps, on voit bien que c'était une manœuvre de Yariv Levin qui a refusé, puisque ça fait partie de ses prérogatives, de convoquer la commission de désignation des juges pour décider qui sera presque automatiquement le juge de la Cour suprême. Alors, il a autorisé un autre juge à se présenter, puisqu'il
Joseph
était
Elrond,
favorable. Exactement.
Un juge conservateur.
Si ce n'est que la majorité de cette commission a estimé que c'est à Isaac Amit que revient, puisque la loi reste toujours en vigueur. Et je dirais qu'on voit là, de la part de Yariv Levin, qui effectivement a cet objectif depuis, je dirais, qu'il est député, c'est-à-dire de mettre en cause cette révolution constitutionnelle dont parlait Sami Cohen, et faute de pouvoir le faire, eh bien, il viole les normes. C'est écrit dans le protocole qu'il doit assister à la réunion, et je dois dire que c'est pas simplement un vice de forme sur le plan protocolaire. Il a déclaré également qu'il ne rencontrerait pas, comme il est tenu de le faire, le président de la Cour suprême de manière hebdomadaire pour suivre le cours de la justice.
Et ça, c'est pareil, c'est inédit dans l'histoire d'Israël. Sami Cohen, dans quelles circonstances la Cour suprême et le ministère de la Justice sont-ils censés coopérer ou du moins communiquer, ne serait-ce que ça? Et là, qu'il ne va pas se faire, puisque le ministre de la Justice dit qu'il refuse de lui parler.
Ben écoutez, oui, normalement ils sont censés coopérer, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, ça fait un moment que le ministre de la Justice et les ministres de la Justice ont boycotté les présidents de la Cour suprême.
Donc c'est inédit qu'ils le formulent alors? Parce qu'on en parle comme d'un inédit, de cette façon qu'a le ministre de la Justice de parler du nouveau président de la Cour suprême. Qu'est-ce qui est inédit? C'est la façon de l'exprimer si officiellement et si promptement qu'il ne lui adressera pas la parole?
Là, c'est très net. À partir de la nomination de Yitzhak Amit comme président de la Cour suprême, oui, il y a une espèce de bouderie. Voilà, le président, le ministre de la Justice boude le président de la Cour suprême. Il faut dire une chose, c'est que on vient d'apprendre ce matin une chose, un développement assez nouveau, c'est qu'a été votée à la Knesset une loi qui permet de nommer un commissaire aux plaintes contre les juges. C'était, il y a un commissaire aux plaintes contre les juges, et là, la Knesset vient de voter une loi pour permettre, pour faire en sorte que ce soit, que cette commission soit subordonnée directement au ministre de la Justice. C'est-à-dire, c'est le ministre de la Justice qui contrôlera directement cette commission, laquelle, à partir de là, il se réserve la possibilité de déposer une plainte contre le président de la Cour suprême au motif que le président de la Cour suprême, a un problème de conflit d'intérêts dans sa carrière, et donc essayer de le délégitimer, voire peut-être même de le déclarer invalide. C'est quelque chose que je viens de découvrir ce matin.
Que vous venez de lire, oui.
Absolument. Et c'est passé. C'est une loi qui est passée à la Knesset, à une majorité très faible, mais elle est passée.
Et est-ce qu'elle devra passer devant la Cour suprême maintenant et donc être jugée par ceux-là même qu'elle concerne?
C'est une bonne question. Oui. Voilà, c'est une bonne question. Et la question qui se pose, est-ce que la Cour suprême peut intervenir sur un sujet qui la concerne directement?
Et qu'est-ce que c'est que cette commission des plaintes contre les juges de Denis Charby? Il y a beaucoup de plaintes contre les juges qui sont formulées chaque année.
Institution, ça fait partie, je dirais, de l'esprit public et démocratique qui règne au sein de la justice israélienne. On a estimé, cette question a toujours été pendant des années laissée de manière un peu vague. Certains adressaient des plaintes au président de la Cour suprême, d'autres l'adressaient au ministre de la Justice. Et puis on a décidé d'officialiser ça, ça remonte à déjà beaucoup, plusieurs décennies, en disant, il faut, 2008, il faut que désormais des personnes qui estiment que le processus juridique n'a pas été bien fait, que le juge a été agressif envers l'une des deux parties, voilà, puisse se plaindre et puisse être entendu. Donc cette réforme en tant que telle est parfaite. C'est comme ça. Je veux dire, les juges sont pas au-dessus des lois et ils peuvent aussi avoir des comportements répréhensibles. À ceci près que le mode de désignation de ce juge des juges, en quelque sorte, comme était effectivement maîtrisé par le président de la Cour suprême. Et là, ça va lui échapper, ça reste... Et ça, je voudrais que ça montre deux choses. Premièrement, ce que j'appellerais une trumpisation de la vie politique israélienne. Voilà, c'est-à-dire que tout est possible, tout est permis, et on en a donné plusieurs exemples jusqu'à présent. Et puis, il y a autre chose qui est très importante de signaler. On aurait pu penser, tout auditeur qui nous écoute pourrait penser que depuis le 7 octobre, on est tellement focalisé sur la guerre que bien entendu, tout ce qui fait division au sein de la société israélienne, on le gèle. Voilà, tout le monde l'a pensé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs les premières semaines. Et là, depuis quelques semaines ou quelques mois, eh bien, on voit que, en dépit de la guerre, en dépit d'un consensus qui est quand même assez important, même si autour de la question des otages, ce consensus est rompu, on aurait pu penser que tout le monde ferait pédale douce, en commençant par le ministre de la Justice. Eh bien non, on remet en selle des tas de projets, dont le premier donc, qui vient d'être voté ce matin, et il y en a d'autres qui attendent. Hein, le président de la Commission des droits dit qu'il a beaucoup de dossiers, et on voit bien que, alors même que la guerre n'est pas terminée, l'agenda... n'est pas modifié et on revient en quelque sorte au climat précédent, mais dans des conditions où bien entendu on ne va pas manifester aujourd'hui contre ce type de réforme parce que la préoccupation principale des adversaires de Netanyahou aujourd'hui, c'est de poursuivre la libération des otages jusqu'à la libération des 24 qui sont encore en vie et d'une trentaine qui sont morts mais dont on voudrait récupérer les corps.
33 pour l'instant ont été libérés par le Hamas depuis le début de la trêve le 19 janvier contre 1900 prisonniers palestiniens. Alors donc cette réforme continue malgré tout, malgré la guerre, et quand je dis on, c'est le ministre de la Justice dont vous disiez, Sami Cohen, qu'il boude. On accuse le président de la Cour suprême presque d'être un opposant politique parce qu'il s'est déjà opposé à des lois de la Knesset. Alors, c'est oublier qu'il a quand même siégé en 2020 au sein d'un groupe de 11 juges qui ont statué à l'unanimité que Benjamin Netanyahou pouvait continuer à exercer ses fonctions malgré ses mises en examen dans les affaires de corruption. Il a aussi donné raison à la police qui avait interdit les manifestations contre la guerre organisée dans le sillage du 7 octobre par le parti politique Hadash à majorité arabe. Alors c'était pour des raisons de sécurité. On doit ajouter aussi qu'il est plutôt apprécié des organisations qui défendent les droits des Palestiniens, notamment pour avoir l'été dernier ordonné aux forces de l'ordre et à l'armée israélienne de permettre à des Palestiniens déplacés de Cisjordanie, car harcelés par des extrémistes juifs, de retourner dans leur village. Voilà pour le portrait de ce nouveau président de la Cour suprême, Isaac Amit. En tout cas, le ministre de la Justice lui continue à défendre sa réforme en disant « Les juges n'ont aucune légitimité démocratique, il faut rééquilibrer les institutions en faveur d'acteurs politiques élus ».
La révolution judiciaire et le fait que la justice s'immisce de plus en plus dans les décisions du gouvernement et dans les votes de la Knesset ont fait tomber la confiance de l'opinion dans le système judiciaire à son plus bas niveau historique. Cela affaiblit le pouvoir de gouvernance et heurte la démocratie.
Yariv Levin, ministre de la Justice, qui est donc toujours en tête d'affaiblir la Cour suprême et le pouvoir judiciaire dans son ensemble, Sami Cohen. Il a présenté une nouvelle mouture de cette réforme de la justice, présentée une première fois en 2022. Il en a présenté une première mouture, là, il y a quelques semaines, en janvier. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette nouvelle version? Est-ce que, sur certains aspects, il a atténué, pris en compte les critiques qui lui ont été faites?
Écoutez, non. Pas tellement. Je crois que l'objectif principal reste le même. C'est affaiblir la Cour suprême, c'est la neutraliser, lui permettre à l'exécutif d'exercer tous les pouvoirs sans entrave. Alors, il y a une clause qui a été suspendue, mais à mon avis, elle va rebondir. C'est la clause du contournement, ce qu'on appelle la clause du contournement, qui permet en fait à l'exécutif, au cas où la Cour suprême invaliderait une loi ordinaire parce qu'elle serait contraire à une loi fondamentale, de la reprendre au bout de 3 mois, de la faire revoter à une majorité simple. On appelle ça la clause du contournement. Bon, pour l'instant, c'est gelé. Mais ce qui est intéressant, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la contestation de la légitimité de la Cour suprême. Il faut voir la conception qu'a cette droite de la démocratie. C'est ça le problème fondamental. Pour elle, la démocratie, c'est elle. C'est eux. C'est l'exécutif et le législatif. Le législatif, il n'y a pas de véritable séparation de pouvoir en Israël entre le législatif et l'exécutif. L'exécutif contrôle le législatif. Et pour eux, la démocratie, c'est eux. Parce qu'ils ont été élus au suffrage... ils ont été élus de manière tout à fait légale. C'est eux qui incarnent la démocratie. Ils ne peuvent pas considérer que la démocratie, toute démocratie, en tous les cas une démocratie libérale, repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est le Parlement qui est issu des élections. Le deuxième pilier, c'est le pouvoir des juges qui défend les droits fondamentaux des citoyens. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter.
C'est quelque chose qu'on entendait déjà dans la bouche plutôt de la droite religieuse qui s'était opposée à la mise en place d'un système judiciaire civil dès la création d'Israël en 1948, Denis Charbi. Et c'est ce qu'on entend aussi de la bouche de cet avocat Simcha Rotman, député du parti sioniste religieux qui a fondé le mouvement israélien pour la gouvernabilité et la démocratie, qui n'a de cesse de dire aux juges qu'ils ont acquis un pouvoir élitiste et qu'ils préservent leurs privilèges en tant qu'Ashkénaze laïque de gauche de Tel Aviv. Ce sont ces mots. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et surtout, comment ce discours-là a infusé dans toute la droite israélienne? C'est ce que semble dire Sami Cohen.
Oui, effectivement, pour, je dirais, asseoir la légitimité de ces types de projets, parce que c'est vrai que la réforme, entre guillemets, judiciaire, c'est un ensemble, c'est un paquet de mesures hein, pour affaiblir la justice. Il n'y a pas que la commission dont on doit modifier la structure, il n'y a pas que la clause de contournement. C'est un ensemble et il est vrai que pour que cet ensemble de mesures soit admis, eh bien on joue de tous les instruments, de tous les registres, de tous les codes possibles et entre autres l'opposition, mais qui est, je dirais, au cœur de la doctrine populiste entre les élites et le peuple. Voilà. Et jouant, et je rebondis sur ce qu'a dit Samy tout à l'heure, c'est-à-dire que le grand argument, c'est de dire les députés et indirectement le Premier ministre sont élus par le suffrage universel. Ils sont élus par le peuple. Et donc, ils ont une supériorité de légitimité par rapport aux juges de la Cour suprême, qui, eux, sont élus par des pairs, dans lesquels il y a une partie aussi du personnel politique, mais en tout cas, ils ne disposent pas de cette même légitimité. Or, toute l'évolution des démocraties dans le monde, c'est bien que on a estimé que le fait que le législatif ou l'exécutif soit désigné au suffrage universel ne peut pas constituer la seule garantie d'un état de droit. Il faut des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs en Israël, c'est la Cour suprême, c'est également la conseillère juridique de l'État, et c'est cela que l'on veut affaiblir. Et alors, concernant cette réforme-là, effectivement, ce que veut faire... Alors, je considère... On a peut-être un petit bémol d'écart. Bien sûr que...
Un désaccord avec Sami Cohen.
Avec Sami Cohen. C'est vrai que la proposition qui a été faite récemment maintient l'idée ou la révolution d'une politisation de la désignation des juges, c'est-à-dire qu'on estime que ce sont les hommes politiques qui doivent désigner les juges, là où la méthode toujours en vigueur, il y a 9 membres et il y avait une majorité de 5 professionnels, des avocats et des juges de la Cour suprême, et dans la première mouture, il s'agissait que alors c'était plus 9, c'était 11, et il fallait que 7 émanent du pouvoir, du gouvernement, de la coalition, etc. Et là, c'était non seulement une politisation des juges, mais c'était une politisation, je dirais, gouvernementale. C'est-à-dire, on nommerait des gens en fonction de leur... On nommerait des juges de la Cour suprême en fonction de leur proximité politique et idéologique. Et là, le compromis qu'ils ont porté... Alors, c'est pas un compromis avec l'opposition, hein, c'est pas un compromis avec le parti de Yair Lapid ou d'autres partis qui sont dans l'opposition. C'est un compromis à l'intérieur du gouvernement. Alors, le principe de la politisation est maintenu. Ce serait 5 politiques 5 politiques, 1 député de l'opposition et 3 juges. Voilà, ça veut dire que ça reste encore cette idée qui apparaît pour beaucoup détestable, c'est-à-dire des hommes politiques vont désigner les juges là où ils devraient maintenir leur indépendance.
Alors Sami Cohen, en janvier 2024, déjà, la Cour suprême avait rendu un arrêt qui avait été commenté comme un camouflet pour le gouvernement Netanyahou. Elle avait invalidé la première clause du projet de réforme de la justice, cette clause qui voulait empêcher les juges d'annuler des décisions du gouvernement quand ils les jugent déraisonnables. Alors d'abord, c'est donc la Cour suprême qui a jugé de cette réforme qui la concerne, mais c'était un vote de justesse, 8 voix contre 7. Comment expliquer, qu'est-ce qui a poussé 7 juges à voter pour un affaiblissement de leur pouvoir, en somme ?
Écoutez, d'abord, il faut dire la clause de la raisonnabilité, c'est une spécificité bien israélienne. Hein. La Cour suprême peut invalider une loi au motif qu'elle n'est pas raisonnable. C'est quelque chose d'invraisemblable dans une autre démocratie. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et c'est les juges qui décident que c'est raisonnable au regard des libertés et des droits fondamentaux des gens. Bon, elle a invalidé la loi, ça a été, c'est passé de justesse, mais c'est passé quand même. C'était une victoire de la démocratie. Ça montre une chose. C'est que, au fond, toutes les pressions et toutes les tentatives de la part du gouvernement depuis la guerre d'octobre 2023, de revenir et de remettre sur le tapis toute une série de clauses d'affaiblissement de la Cour suprême, elles ne sont pas passées. La clause du contournement n'a pas été remise sur le tapis. La clause de la raisonnabilité qui a été votée par la Knesset a été invalidée par les juges de la Cour suprême. On voit qu'il y a quand même un équilibre de force qui tient encore. La Cour suprême tient bon encore. Alors qu'on aurait pu penser que, à la faveur de la guerre, à la faveur du fait que l'opinion publique, comme l'a dit tout à l'heure Denis, se sent moins mobilisée sur le problème de la démocratie que sur les problèmes de la restitution des otages et de la guerre, on aurait pu penser que la Cour suprême céderait, mais ce n'est pas le cas. Voilà.
Je me sens très triste, je ressens une très grande déception envers notre gouvernement. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup d'espoir avec tout ce qui se passe ici et tous ces gens qui sont venus aux manifestations.
On se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce pays redevienne normal et non complètement fou.
On se bat pour nos droits et on se bat pour que tout le monde ait des droits, pas juste pour nous. On se bat pour un meilleur pays, on se bat pour la justice.
Je suis ici car les extrémistes essaient de changer notre régime. Ils sont arrivés au pouvoir et ils essayent d'affaiblir la démocratie.
Ces témoignages recueillis dans des grandes manifestations en Israël par France 24, c'était l'année dernière, donc c'était en pleine guerre à Gaza, malgré le fait qu'aujourd'hui les Israéliens soient beaucoup plus mobilisés et attentifs à ce qui se passe avec les otages. Cette réforme de la justice, elle continue à inquiéter, on l'entend. D'ailleurs, cette justice israélienne, est-ce qu'elle compte et est-ce qu'elle pourra enquêter sur la guerre que le gouvernement de Benjamin Netanyahou a lancée sur Gaza, puis sur le Liban après le 7 octobre. Alors on va parler de des débats sur la commission d'enquête juridique, sur la question des otages et des attaques du Hamas du 7 octobre. Mais d'abord sur les actions de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce qu'elle a déjà eu à se prononcer depuis le 7 octobre 2023, Denis Charbi, ou tout ce que l'armée israélienne a pu engager à Gaza ou au Liban n'est pas passé par la Knesset de toute façon, donc n'est pas passé entre les fourches caudines de la Cour suprême?
Alors, il faut savoir, l'armée israélienne a ceci de très singulier, qu'elle a une culture de l'enquête extrêmement développée. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça fait partie, attention, non pas dans un cadre, je dirais, criminel, mais pour comprendre comment les choses se sont opérées. Et il est
vrai... Avec toutes les faillites qui ont été relevées dans l'histoire et
l'armée estime que c'est son devoir de le faire parce qu'elle doit... Voilà, éviter que ça se reproduise. Donc c'est pas à des fins d'inculpation de qui que ce soit, c'est d'abord pour comprendre quelle est la nature de la défaillance, qu'est-ce qui s'est passé.
Mais je renvoie quand même, pardon, aux travaux d'Amélie Ferret qui a raconté comment l'armée israélienne utilisait aussi le droit pour justifier a posteriori ses actions et la non-condamnation de soldats qui sont rendus coupables de crimes de guerre, etc. Mais là, c'est pas le propos, mais je devais le souligner parce que vous avez parlé de l'armée qui a cette culture de l'enquête.
De l'enquête pour comprendre les défaillances, pour comprendre non pas pourquoi telle opération a réussi, mais justement pourquoi elle a échoué ou pourquoi ça n'a pas été cela. Et c'est pour ça que l'armée israélienne a commencé sa propre enquête, mais encore une fois, ce qui n'a rien à voir avec la commission d'enquête judiciaire dont on parle beaucoup et qui est là un autre instrument dont l'État de droit, dont la démocratie israélienne a mis en place dès 1968 pour dire quand il y a une défaillance grave au niveau de l'État, il faut que le gouvernement décide d'une enquête de ce type. Alors, ces enquêtes ont lieu, des résultats déjà ont été publiés concernant, alors non pas la conduite de la guerre, ça il faut le dire, non pas la conduite de la guerre depuis le 8 octobre en quelque sorte, mais sur la défaillance du 7 octobre. Des conclusions ont été livrées d'abord aux habitants des kibboutz et des localités avoisinantes pour leur dire, voilà, pourquoi nous sommes intervenus si tard. Mais ce travail qui est fait, qui est important, parce qu'on le doit à ces habitants qui ont été privés des secours pendant longtemps, ne met pas en cause la revendication qui, à mon avis, va émerger une fois que le problème des otages, la libération des otages, aura été accomplie, c'est la mise en place d'une commission d'enquête judiciaire, comme on l'a fait chaque fois que l'État d'Israël a failli dans tel domaine ou dans un autre.
Et de quel type, alors, cette commission? Parce qu'on parle en Israël quasiment de de comitologie.
Excusez-moi, mais je voulais revenir à la question que vous avez posée. Est-ce que la Cour suprême est intervenue sur les questions militaires? Ça, c'est une très bonne question. La réponse est non. La plupart du temps, la Cour suprême a refusé de s'immiscer sur des plaintes qui portaient sur des questions de sécurité. Pour des raisons très simples, c'est qu'elle sait très bien que là, il y a un problème très sensible. Le problème de la sécurité de la population, des citoyens. Elle n'a jamais voulu invalider une action de l'armée, à l'exception d'une seule, qui est l'utilisation des boucliers humains pendant la deuxième intifada. Là, le président de la Cour suprême à l'époque, Aaron Barak, a décidé que l'utilisation par l'armée israélienne de boucliers humains pendant la deuxième intifada était contraire au droit international. Il l'a invalidé. Mais c'est le seul cas. C'est le seul cas d'invalidation. Là, je vous prends, il y a eu des plaintes concernant le traitement des prisonniers palestiniens, notamment dans le camp de Sde Teman. La Cour suprême a refusé de se prononcer sur cette question en donnant toutes sortes d'arguments, mais on ne touche pas à la sécurité, c'est trop sensible.
Or, il y a beaucoup et de plus en plus de boucliers humains dans l'armée israélienne, puisque c'est encore les travaux d'Amélie Ferret qui expliquent la pratique du knocking on the roof, par exemple, quand l'armée israélienne envoie une première charge sur un bâtiment en guise d'avertissement et que 5 minutes après, elle envoie une charge qui détruit l'immeuble. Entre-temps, le statut des habitants de l'immeuble a changé, et là on parle des Gazaouis et pas des soldats israéliens, ils sont devenus juridiquement des boucliers humains volontaires ou involontaires, mais en tout cas, c'est passionnant de se plonger aussi dans cette histoire-là, mais la Cour suprême là-dessus n'a jamais été saisie depuis le 8 octobre 2023.
Alors. Elle a été saisie, elle a refusé de sanctionner l'armée. Et ça, c'est une constante chez elle.
Elle l'a jamais fait en disant l'armée se sanctionne elle-même.
Elle a fait une seule fois pour l'utilisation par Israël de Palestiniens comme boucliers humains.
Alors, sur ces commissions d'enquête juridique dont il est beaucoup question en ce moment en Israël, savoir quel genre de commission d'enquête peut se mettre en place lors d'événements graves et exceptionnels en général, et là, en l'occurrence, en particulier sur la guerre à Gaza, sachant qu'il y a en Israël aussi une critique qui est formulée, même par l'ONU depuis les années 2000, c'est ce qu'on appelle la comitologie, c'est de constituer des commissions qui ne sont pas indépendantes parce qu'elles sont contrôlées par l'exécutif. C'est l'exemple qu'on donne en général du comité Turcal qui avait dû évaluer la nature de la réponse israélienne à l'envoi par la Turquie d'une flottille humanitaire avec 700 passagers à bord à destination de Gaza en mai 2010. C'était pour briser le blocus. L'armée israélienne avait riposté, ça avait fait 9 morts et 28 blessés. Il y avait une commission qui avait été mise en place, qui avait établi le fait que la riposte israélienne était disproportionnée, mais qui n'avait condamné personne. Est-ce que c'est ce genre de commission d'enquête qui peut se mettre en place, qui est en train de se mettre en place pour la question des otages et de Gaza?
Non, écoutez, il faut bien distinguer les choses. Le débat en Israël sur la commission d'enquête et le refus du Premier ministre de nommer une commission d'enquête, elle porte sur la responsabilité des acteurs politiques, des acteurs militaires, des acteurs de sécurité sur les défaillances du 7 octobre.
D'accord.
Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête sur la conduite des opérations? On n'en parle pas pour l'instant. Ce sont deux choses différentes. Il n'est pas question, et l'opinion ne le réclame pas. L'opinion publique soutient à fond l'armée, lui donne carte blanche pour mener ses opérations militaires comme elle veut. Il y a très peu de gens en Israël qui disent, bah écoutez, l'armée est allée trop loin, elle a fait beaucoup trop de victimes, elle a utilisé des modes opératoires très agressifs, mais ces gens-là sont très peu nombreux. Donc, il faut distinguer les deux types d'enquêtes qu'on souhaite. Il y a une qui est souhaitée, qu'on attend, c'est sur le 7 octobre. L'autre, j'ai pas vu de mouvement d'opinion réclamant véritablement une commission d'enquête sur les opérations de guerre de Tsahal.
Aujourd'hui, manifester contre la réforme de la justice ne veut pas dire manifester contre ce que le gouvernement israélien mène à Gaza depuis un an et demi. Et d'ailleurs, j'imagine, Denis Charby, que si les manifestations se sont un peu clairsemées, c'est aussi parce que certains se sont engagés dans l'armée entre-temps ou simplement ont été embauchés.
Tout simplement parce que depuis le lendemain du 7 octobre, la préoccupation, pas principale, exclusive des Israéliens, c'est la libération des otages. Et tout est subordonné à cela. C'est-à-dire que, de la même manière, on manifeste pas aujourd'hui contre la réforme de la justice ou contre les incursions récentes du ministre de la Justice, on manifeste pas sur la conduite de la guerre, bien évidemment, on manifeste pour que Netanyahou s'engage à mettre en priorité la libération des otages, ce qu'il ne semble ne pas faire, en tout cas ces jours derniers. Et une fois que la libération des otages sera effectuée, alors il est plus que probable que la nouvelle lutte ou le nouveau clivage qui oppose une grande partie d'Israéliens au gouvernement tournera autour effectivement de la nomination de cette commission d'enquête dont on veut qu'elle soit la plus sérieuse, parce qu'il y a plusieurs types de commissions qu'on peut mettre en place. Ça peut être la Knesset qui la met en place, mais à ce moment-là, elle n'a pas les mêmes prérogatives, elle n'a pas la même autorité. Il y a eu près de 20 commissions d'enquête qui ont été menées depuis 1968. Netanyahou est 16 ans au pouvoir, il n'en a pas créé une seule. Attention, c'est au gouvernement de la créer, mais une fois qu'il l'a créée, il doit définir le mandat de cette commission. Et après, la nomination des membres de cette commission lui échappe totalement. Ça reste des recommandations, mais il y a une sorte, là aussi, de norme qui fait que ces recommandations, on estime qu'elles doivent être entendues. Et Netanyahou fait tout parce que c'est la seule commission qui pourrait inquiéter son sort politique et celui du gouvernement, là où il estime que la responsabilité, d'ailleurs, chaque fois qu'il fait des déclarations là-dessus, c'est pour dire que la défaillance est celle de l'armée, il n'a pas été prévenu et donc il est indemne, mais il refuse néanmoins, même s'il a, il constitue un dossier pour, je dirais, pour son acquittement public, le fait est qu'il s'oppose à la nomination de cette commission. Alors au début il disait, on est en temps de guerre, donc c'est pas le moment, on le fera plus tard, mais le fait est qu'au-delà de la nomination formelle de cette commission, il n'a jamais prononcé la formule qu'on attend de lui depuis le début, je suis responsable en tant que chef, en tant que chef du gouvernement, et depuis 2009, à l'exception d'un an et demi. Et donc voilà, c'est ça ce clivage-là. Mais je n'ai pas de doute qu'une fois les otages revenus dans leur foyer, ce sera là-dessus que se mobilisera l'opinion publique, mais effectivement, pas sur la conduite de la guerre, mais sur les défaillances du 7 octobre.
Sami Cohen.
Oui, c'est pour embrayer là-dessus, il est à craindre que Benjamin Netanyahu ne soit pas très intéressé pour accélérer le processus de libération des otages. Parce que, justement, ça veut dire que l'opinion publique va se focaliser sur les responsabilités politiques et militaires et sécuritaires de cet octobre. Ça veut dire qu'il est... Il sera mis sur la sellette. Et donc, on est dans une période. On ne sait pas très bien quel choix stratégique pour lequel Netanyahou va opter. Est-ce que il va continuer le processus des négociations pour la libération des otages, passer à la phase 2? Moi, je doute fort, parce que la phase 2, ça veut dire retrait israélien de la bande de Gaza, ça veut dire fin de la guerre, fin des opérations militaires israéliennes, ça veut dire victoire du Hamas. Voilà ce que ça veut dire.
Pour lui, pour Benjamin Netanyahou, pour parce Benjamin qu'on va peut-être Netanyahou. Pas rentrer dans ce débat.
Donc, ouais. Je doute fort qu'il aille jusque-là.
Un autre poste est considéré comme étant normalement un contre-pouvoir ou quelqu'un qui va vraiment surveiller toutes les actions et de Benjamin Netanyahou et de tout le gouvernement, c'est, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Denis Charbi, le procureur de l'État, en l'occurrence la procureure de l'État, Gali Baharav Miara. Qui est-il? Quel est son statut particulier en Israël déjà, Sami Cohen?
Écoutez, c'est un peu l'équivalent de la tournée générale au Royaume-Uni. C'est une personnalité qui est nommée par le gouvernement pour 6 ans, qui a une double casquette. À la fois, elle est conseillère juridique du gouvernement, mais elle peut, en tant que procureur, également inculper des membres du gouvernement et des membres de la haute administration. Et donc, il y a eu des cas dans le passé où le conseiller juridique du gouvernement a inculpé un ministre, voire l'a fait démissionner. Ça a été le cas sous Rabin. Rabin, à l'époque, sa femme avait gardé un compte en dollars à la suite de leur séjour aux États-Unis, comme ambassadeur d'Israël à Washington. Elle l'a pas clôturé. À l'époque, c'était contraire à la loi israélienne. Et le conseiller juridique du gouvernement, qui était Aaron Barak à l'époque, a très bien expliqué à Rabin qu'il allait l'inculper. Et Rabin, homme honnête fondamentalement, a démissionné de son poste. Donc, c'est quelqu'un, c'est une fonction qui est vraiment une fonction très importante en Israël. C'est pas véritablement un contre-pouvoir, c'est plutôt une fonction qui défend l'état de droit. Elle ne peut pas s'opposer catégoriquement et briser une politique du gouvernement, mais ses avis comptent. On ne peut pas. Il y a une chose aussi supplémentaire. Le gouvernement ne peut pas la limoger. Le gouvernement peut la limoger, mais généralement, ça s'est jamais passé de cette manière-là. Actuellement, il y a un projet pour limoger la conseillère juridique du gouvernement, ce qui serait quelque chose de totalement nouveau dans le système politique israélien.
Il y a un projet pour la limoger, elle, Denis Charabi, parce qu'elle ne plaît pas du tout, au ministre. C'est un peu comme le nouveau président de la Cour suprême, on ne lui adresse pas la parole ou...
Alors, c'est pire que ça. Il y a des sorties publiques de ministres qui ont même signé une pétition, je crois qu'ils étaient 18 sur les 27 ministres, pour dire on demande le licenciement de Gali Bihara. Et elle est, mais tous les jours, pour ainsi dire, sous la ligne de mire du gouvernement. Alors, Netanyahou ne se prononce pas parce qu'il a un conflit d'intérêts, puisqu'il est un procès, donc il ne peut pas se prononcer là-dessus, mais ça fait partie, je dirais, d'un climat qu'on entretient, c'est le bouc émissaire, voilà. Et elle a pour fonction, effectivement, le titre de conseiller juridique peut induire en erreur, elle est là pour indiquer au gouvernement si telle ou telle décision qu'il prend est contraire ou non à la loi. Et elle est d'ailleurs censée, chaque fois qu'on attaque l'État à la Cour suprême, elle est censée défendre le gouvernement. Dans certaines affaires, elle et ses prédécesseurs considèrent parfois que, en dépit de ses conseils, elle dit « je ne peux pas défendre l'État sur cette affaire » et le gouvernement fait appel à des avocats privés pour défendre leur cas. Donc, elle est effectivement, pas de facto, pas formellement, mais pas de jure, mais de facto, elle est une sorte de contre-pouvoir. J'ajouterais d'ailleurs que chaque ministère possède également un conseiller juridique qui est là pour indiquer au ministre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et un des volets de la réforme, qui n'a pas encore été remis actuellement en débat, mais un des volets de la réforme, c'était que ce conseiller juridique de chaque ministère soit désigné par le ministre lui-même et ne représente plus en quelque sorte l'intérêt général.
En tout cas, c'est ce poste-là qui est aussi mis sur la sellette avec la réforme, puisque les conseillers juridiques ne seraient plus nommés par la conseillère en chef, mais par le ministère. Vous le disiez, la façon de nommer ce procureur d'État pourrait peut-être changer, ou ses attributions. Benjamin Netanyahou ne se prononce pas, disiez-vous. Il ne peut pas, puisque son procès est en cours, mais il a sans doute tout intérêt à ce qu'elle soit, sinon licenciée, au moins intimidée, justement du fait de son procès. On en parle juste après cette chanteuse israélienne qui pleure la guerre, Tamar Religen et ses larmes de bénédiction. למה שוב עכשיו במלחמה? למה חברים באדמה? שוב עכשיו אותו הכעס? בחדשות אימה, ילד בלי אימא, פתאום הם עולים לשמיים. ואבא מאוהב, איפה הילד שלי? משהו קבע בעיניים. שני נרות שבת לוקים תמיד אני איתך פותח ידך אליי גם אם יש דמעות עד שיהיו כבר לבחה Tamar Religen et ses larmes de bénédiction. C'est une chanteuse israélienne qui a sorti ce titre l'année dernière. Et voici un moment d'éclipse, dit-elle. Peur du silence maintenant. Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Pourquoi y a-t-il à nouveau une guerre? Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur la façon dont les juges ici et là ferraillent contre des exécutifs qui veulent remettre en cause leur indépendance. Aujourd'hui en Israël, le sursaut de la Cour suprême qui a remporté quelques victoires récentes contre le gouvernement de Benjamin Benjamin Netanyahou, lequel est par ailleurs toujours inculpé par la justice israélienne. Et depuis le mois de décembre, il comparaît en personne dans un procès au pénal.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Cela fait 8 ans que j'attends de dénoncer le système, cette chasse aux sorcières brutale. Ces enquêtes sont nées dans le péché. Comme il n'y avait pas d'infraction, ils en ont cherché une. Comme ils n'ont pas trouvé d'infraction, ils ont décidé d'en inventer une.
Benjamin Netanyahou, en décembre, lorsqu'il comparaissait pour la première fois devant la cour de Jérusalem, délocalisée à Tel Aviv, 5 ans après que son procès eut commencé pour corruption, fraude et abus de confiance. Le Premier ministre, qui dit avoir attendu ce moment pendant 8 ans, enquête comprise, fait néanmoins depuis tout pour en ralentir le cours. Alors notre invité à Tel Aviv, journaliste qui suit les audiences, n'a pas pu assurer son intervention chez nous ce matin. On lui souhaite un très bon rétablissement. Mais Denis Charby, Sami Cohen, vous êtes avec nous et on sait néanmoins à peu près, Sami Cohen, comment les audiences se déroulent depuis décembre. Est-ce qu'elles se déroulent à peu près comme il était prévu quand le procès s'est rouvert? Est-ce que le Premier ministre comparaît 3 jours sur 5, 6 heures par jour? C'est ce qui était prévu.
Non, pas totalement. Pas totalement. Ça a été le cas au début, mais un Premier ministre qui est censé conduire la guerre et en même temps être présent à ces procès, c'est quelque chose d'inimaginable. Mmh. Et donc, au début, on l'a vu faire obstruction, parler de ce qu'il arrangeait, en fait faire de la politique. Et maintenant, il a demandé que la Cour lui permette de ne pas intervenir 3 jours par semaine, mais moins, soit 2 fois par semaine, étant donné les responsabilités qu'il a dans la conduite de la guerre. Voilà, pour l'instant, il a réussi à renier un peu sur le nombre de ses interventions, mais il faut dire que normalement, un Premier ministre qui est inculpé dans une démocratie libérale, digne de ce nom, le Premier ministre démissionne. Le ministre démissionne. Il ne peut pas faire et l'un et l'autre. En Israël, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons une droite qui est irrespectueuse de la démocratie, qui ne connaît pas les règles de la démocratie libérale.
Mais là, il y avait quand même eu un accord signé entre Benjamin Netanyahou et la Cour suprême en 2022. Il était déjà poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Or, il a quand même pu honorer son mandat, sa réélection de Premier ministre, en vertu d'un accord avec la Cour suprême qui disait quoi alors, Denis Charby ? Cet accord, et surtout, est-ce qu'il est en train de le renier en freinant des cas de fer pour que les audiences se déroulent correctement?
Une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec Sami Cohen. C'est la loi. Il y a eu l'inculpation d'Ehud Olmert, un premier ministre qui a été inculpé. Et on a estimé à ce moment-là que la Knesset devait se prononcer sur qu'est-ce qu'on fait quand un premier ministre est mis en examen. Bon. Et elle a décidé, alors à tort ou à raison, que comme le premier ministre est élu au suffrage universel, on doit pouvoir lui offrir la possibilité de rester Premier ministre tout en menant son procès. Et l'argument d'ailleurs à l'époque qui fait qu'on a voté pour cet amendement-là, c'est qu'on a dit n'importe quel Premier ministre dans une situation pareille préférera démissionner. Voilà. En disant on va le voter, mais on sait bien que personne ne le fera. Sauf qu'on n'avait pas prévu le cas Benjamin Netanyahou, qui est un cas effectivement à part, où lui considère que c'est possible. Et c'est pour ça qu'il n'a pas remis sa décision. Mais il est dans le strict respect de la légalité.
Si on se place dans
je pense qu'à posteriori, on modifiera cela parce qu'on voit que ce n'est absolument pas possible, surtout en période de guerre. Alors ce qu'il fait effectivement, c'est d'essayer de limiter, de darguer de ce qu'il a, une conversation secrète, impérative, impérieuse, qui fait qu'il doit s'absenter. Parfois, les juges lui ont donné gain de cause en disant bon bah il y a un intérêt suprême qui justifie qu'on remette à plus tard. Mais parfois, il le fait, je dirais, à des fins, on va dire populaires et populistes. Je donne l'exemple plus récent lors de l'enterrement de la famille Bibas, il a demandé à intervenir en disant je demande qu'on respecte une minute de silence pour bien marquer pourquoi nous combattons. C'est-à-dire une manière de dicter au déroulement d'un procès comment ça doit se passer. Et la réponse d'une des 3 juges, puisqu'il y a 3 juges devant lui, a dit « Mais nous savons pourquoi nous combattons et donc nous allons tout de suite commencer l'audition ». Vous voyez, il y a cette sorte d'exploitation et là, pour moi, la question est la suivante. Et ça permet de raccorder tout ce dont on parle depuis le début. je pense que Yariv Levin et de nombreux ténors du Likoud, eux, en veulent à cette démocratie libérale, cette démocratie qui donne un pouvoir égal, voire supérieur à l'autorité judiciaire plutôt qu'à l'autorité politique qui est élue au suffrage universel. Je pense que Netanyahou a rejoint ce camp-là du moment où il a eu son procès. À ce moment-là, il a estimé que lui aussi les rejoint idéologiquement parlant.
Je vous donne la parole, Sami Cohen. Je voulais juste rappeler les affaires sur lesquelles Benjamin Netanyahou est entendu et accusé aujourd'hui. Trois affaires. La première, ce sont les gros cadeaux, cigares, champagne offerts à flux continu par un ami du couple Netanyahou, producteur à Hollywood, en échange de certaines intercessions dans ses affaires. Il y a l'étractation avec le site d'information Walla pour une couverture plus favorable en échange de faveurs accordées au groupe de presse auquel il appartient, Yediot, à Aronaut. Et puis la troisième concerne le domaine de la régulation des médias. Sami Cohen, vous vouliez réagir à ce que dit Denis Charles.
Oui, Denis a rappelé tout à l'heure ce qui était légal, ce qui n'était pas légal. Mais il y a autre chose dans une démocratie. C'est les normes non écrites qui sont aussi importantes que les lois qui sont votées, que les actes qui sont décidés par la Knesset. Et ça, c'est très important. Une démocratie qui ne... Normalement, une démocratie libérale respecte des normes non écrites. Une des normes non écrites, c'est que un chef de gouvernement qui est inculpé par le système judiciaire ne reste pas au pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la culture politique de la droite israélienne. Ça s'est passé dans le passé, comme je l'ai rappelé avec Rabin qui a démissionné. Mais aujourd'hui, on a aujourd'hui depuis une quinzaine d'années, on a une droite qui ne comprend pas ce qu'est le fonctionnement d'une démocratie libérale. Ça les dépasse totalement.
En tout cas, on entend bien à vous écouter, l'un et l'autre, Denis Charvis, Sami Cohen, les débats que cela peut provoquer en Israël même, ces comparutions de Benjamin Netanyahou devant la justice et surtout la façon qu'il a de freiner les audiences. Le rôle de la procureur général, là en l'occurrence Gali Baharav Miara, dans ce procès qui est à la fois procureur de l'État mais qui est là aussi pour inculper si besoin les chefs d'État ou de gouvernement. Comment ça se passe? Son rôle à elle, quel est-il dans ce procès-là?
Écoutez, je crois que à partir du moment où il y a une cour qui fait son travail, elle n'intervient plus. Elle intervient en amont, conseiller le gouvernement face à des recours devant la Cour suprême ou autre. Mais là, ce n'est plus son rôle.
Un tout petit mot, Denis Charvis.
Non, elle a intervenu parce qu'il y a eu pression sur des témoins de l'accusation et elle a estimé que compte tenu des pressions qu'on a exercées sur cette dame, à ce moment-là, il fallait engager une enquête de plus. Donc, mais pas dans le procès lui-même, mais de ce qui se passe autour du procès, des retombées du procès.
Elle a ordonné une enquête sur la femme de Benjamin Netanyahou pour subornation de témoins après une enquête du mois de décembre par une chaîne de télévision privée qui donne à entendre des enregistrements les présentant comme ceux de Sarah Netanyahou et qui fait pression en effet sur l'ancienne assistante de son mari pour qu'elle harcèle tous ceux qui aujourd'hui portent des témoignages contre Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Denis Charby, Israël, l'impossible état normal, c'est le dernier livre que vous avez fait paraître chez Kalman Levy. Sami Cohen, Israël, une démocratie fragile, votre ouvrage est disponible chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous replongez ce matin, Catherine, dans l'horreur de la guerre au Soudan.
Il y a des matins où l'actualité est vraiment insoutenable. Alors, pas question pour autant de détourner le regard dans un pays où la moitié de la population, 25 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, crient famine, souligne The Sudan Tribune. Dans un pays où 12 millions de personnes ont dû quitter leur maison à cause de la guerre, qui va bientôt entrer dans sa troisième année, rappelle la BBC, avec deux généraux, autrefois alliés, aujourd'hui ennemis, qui ont plongé le Soudan dans l'abîme, écrit Al Jazeera. Ce sont des visages émaciés qu'a rencontré une journaliste de la Deutsche Welle, des yeux désespérés comme ceux de Souleymane, 6 ans, qui risque d'être amputé, ou encore un jeune homme de 20 ans défiguré par un obus. Il ne peut être alimenté que par une sonde, précise la radio internationale allemande, l'un des rares médias qui a pu se rendre sur le terrain de Port-Soudan, sur la mer Rouge, jusqu'à la capitale Khartoum, plus au sud, et sa ville jumelle Omdoumran, située sur la rive ouest du Nil. Dans un Soudan à feu et à sang, donc littéralement, l'armée régulière et surtout les forces forces paramilitaires de soutien rapide sont accusées de transformer les camps de déplacés en champs de bataille, alerte le média soudanais Radio Dabanga, avec des exactions, des bombardements, par exemple, sur le camp de Zamzam à El Fasher, dans l'ouest du Soudan. De nouvelles atrocités viennent s'ajouter ce matin. Des hommes armés ont violé des enfants, des bébés d'à peine un an, dénoncent CNN et la BBC, d'après un rapport de l'ONU, le premier du genre qui détaille les viols sur enfants. 221 viols ont été recensés l'an dernier, mais ce n'est qu'une infime partie de la réalité. Les victimes et leurs familles sont souvent réticentes ou incapables de se manifester, explique la BBC, craignant d'être stigmatisées, rejetées par la société. Peur également de représailles des groupes armés, difficulté aussi à atteindre des structures de santé dans ce pays, rappelle la BBC.
Des femmes et des jeunes filles soudanaises sont également victimes de viols.
Nous en avons déjà parlé ici même et c'est aussi ce que raconte Omnia, une adulte qui a échappé à ses agresseurs. Après avoir été retenue pendant 19 jours dans une pièce avec d'autres femmes et jeunes filles, après 21 heures, raconte-t-elle, quelqu'un ouvrait la porte muni d'un fouet. Cet homme choisissait une des filles et l'emmenait dans une autre pièce. Je l'entendais pleurer et crier. Il violait cette fille, se souvient Omnia, citée par la BBC et CNN. Un tiers des enfants victimes de viols sont des garçons, précise la BBC, et tous et toutes subissent de graves blessures physiques et psychologiques. L'objectif est de terroriser la population, notamment les personnes noires visées par les milices arabes, explique la BBC. Conséquence à vie, les survivantes confrontées à des choix impossibles comme une grossesse. Ces crimes devraient choquer tout un chacun au tréfonds de son âme et obliger à agir rapidement, estime l'ONU. Les yeux rivés sur Gaza et l'Ukraine, l'indifférence de la communauté internationale face aux souffrances des civils au Soudan est profondément choquante, dénonce le Guardian. Et pourtant, la situation géographique du Soudan, entre le Sahara, la Corne de l'Afrique, le Sahel et la Mer Rouge, implique que ce qui se passe à l'intérieur de ces frontières a de profondes répercussions bien au-delà, même si l'Europe préfère faire comme si cette crise n'existait pas, ajoute le Guardian. Elle cherche désespérément à limiter les migrations, rappelle le journal britannique. Aujourd'hui, la fin de l'aide humanitaire de l'USAID, décidée par Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis, réduit à peau de chagrin les programme qui aide les Soudanais et les Soudanaises à survivre tant bien que mal, alerte The Sudan Tribune et Radio Dabanga. Trois centres de santé desservant 30 000 personnes dans l'est du Soudan ont fermé depuis la semaine dernière à cause de la perte de financement américain, indique The Sudan Tribune. Et les Soudanais qui ont pu fuir vers l'Éthiopie, le Tchad, le Soudan du Sud et l'Ouganda, poursuit le Guardian, ne reçoivent aujourd'hui dans ces pays que 30 à 60% d'une ration alimentaire complète.
Et la politique menée par Donald Trump, pour conclure Catherine, cette politique continue à faire des mécontents, c'est peu de le dire.
Le président républicain avait promis pendant la campagne de redonner du pouvoir d'achat aux habitants, mais les Américains n'en voient pas la couleur. Et le risque est de faire encore grimper les prix à la consommation, affirme ABC News, avec l'entrée en vigueur aujourd'hui des droits de douane de 25% sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique, explique le Wall Street Journal. 20% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. Alors, à part des réductions d'impôts pour les chefs d'entreprise, avec au passage la corruption qui n'est plus un crime, note le magazine Forbes et le Guardian, l'oligarchie techno-césariste aux États-Unis veut renverser la démocratie, alerte la revue Le Grand Continent. Et dans le marasme ambiant, un titre enchante aussi bien Billboard que le Kiev Post, alors que Donald Trump a gelé l'aide militaire pour l'Ukraine. We're in the middle of a hostile government takeover. I wanna talk about it, but I've been late for work. Nous sommes au milieu d'une prise de contrôle hostile de la part du gouvernement. Je veux en parler, mais je vais être en retard au travail, chante Todd Givens Jr. dans Hostile Government Takeover, morceau devenu viral sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, et désormais parmi les remixes les plus téléchargés sur iTunes, explique le magazine Billboard. Et la bonne nouvelle pour Todd Givens Jr., qui a donc fait ce remix, c'est que les 4 années à venir avec Donald Trump offriront certainement, selon Billboard, de nouvelles annonces présidentielles sur lesquelles s'appuyer musicalement.
Eh ben merci Catherine Dutu.